Avant de commencer, on va essayer de situer un peu les tanneries dans le milieu dijonnais et en dire quelques mots.
Alors, les tanneries, comme son nom l'indique, c'est un espace autogéré, c'est-à-dire géré par ses usagers et usagères. Donc, l'autogestion pour nous signifie le choix d'un mode d'organisation horizontal qui cherche à court-circuiter la hiérarchie et la délégation de pouvoirs qui sont propres à la plupart des structures associatives ou collectives. Les tanneries, c'est donc un espace, un double projet. Un projet d'habitation d'abord, c'est-à-dire un espace de vie collective pour 8 personnes, donc 8 personnes qui vivent en permanence ici, avec le désir de s'affranchir des modes de vie entre guillemets traditionnels qui sont encouragés voire imposés par la société, c'est-à-dire l'isolement propre au chacun son appart, isolé devant sa télé. Une volonté donc de casser un petit peu ces barrières et puis d'expérimenter une vie en collectif avec une mise en commun de certaines ressources, avec un échange permanent et une réflexion sur la manière dont on interagit ensemble, sur notamment la manière dont on peut véhiculer des comportements sexistes, des comportements discriminatoires ou des comportements d'autorité. Donc une volonté de dépasser un petit peu tout ça et puis de créer un espace de cohabitation égalitaire. Donc un projet d'habitation d'abord, mais aussi, et c'est surtout à travers ce second volet que les tanneries sont connues sur Dijon, un projet d'activité publique. Un projet d'activité publique ouvert à tous et toutes, donc à toutes les bonnes volontés qui se retrouvent dans les quelques grandes lignes que sont l'horizontalité dans les processus de décision, l'indépendance totale vis-à-vis des institutions et autres entreprises, puisque nous avons fait le choix depuis le début de refuser les subventions et donc d'être dans une démarche d'autonomie qui passe par la récupération, qui passe par le bénévolat, qui passe par l'inventivité plutôt que d'acheter et de consommer. Donc on construit nous-mêmes dans la mesure du possible et on s'organise de manière autonome. Donc un projet d'activité qui se caractérise par énormément de manifestations publiques. Alors des manifestations publiques comme des concerts, des pièces de théâtre, des débats. Des ateliers d'échange de savoir hebdomadaires, voire plusieurs fois par semaine, généralement le week-end, donc avec une programmation musicale variée, qui a pour spécificité de faire la place à des groupes et autres troupes qui choisissent un mode de diffusion et d'expression indépendante, donc indépendante vis-à-vis des grosses structures. Et des labels de musique tels qu'Universal, Virgin, etc. Donc des groupes qui sont en général autoproduits ou qui se produisent exclusivement dans des circuits alternatifs et qui cherchent en général, à travers leur musique et à travers leur démarche, à communiquer des idées, à créer des espaces de participation et non seulement des espaces de consommation de culture ou de consommation passive de musique, de concerts, de fun, tel que c'est souvent le cas dans les structures institutionnelles ou plus commerciales. Donc une scène indépendante, une scène qu'on appelle en général DIY, du terme anglais do it yourself, fais-le toi-même, qui s'inscrit donc dans ce processus d'autonomie, qui favorise la libre expression, bien entendu, et l'expression de ce qu'on peut appeler une contre-culture.
Très bien, alors là on a bien situé ce qu'est les tanneries. Alors entre autres, les tanneries proposent un atelier qui s'appelle Print, alors on va tout de suite en savoir plus. Alors qui est entre autres un moyen pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'exprimer avec le vecteur informatique. Alors est-ce qu'on peut dire un mot sur Print?
Alors les activités des tanneries, donc je n'ai cité que le début, les week-ends en général avec concerts, théâtre, etc. Les tanneries, c'est bien entendu pas du tout limité à ça, puisque tous les mercredis après-midi, le lieu est ouvert de 16 à 20 h et propose une zone de gratuité, donc un espace affranchi de l'économie, entre guillemets, qui permet à chacun et chacune de donner des objets dont il ou elle n'a plus l'usage et d'en prendre d'autres, sans même qu'une notion d'échange soit impliquée. On a également un info-kiosque. C'est-à-dire un kiosque de lecture indépendante de brochures, de bouquins, de fanzines et autres magazines qu'on ne trouve pas en kiosque généralement, et qui sont aussi le vecteur d'une expression libre et dissidente, j'ai envie de dire, puisqu'on y trouve quantité de textes et de réflexions qui sont relativement peu communes et qui ne sont pas véhiculées par les médias qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir. Et enfin, pour compléter tout ça, donc Print, j'y viens. Qui propose d'utiliser l'internet comme espace de libre expression et comme espace d'expression d'une information peu habituelle, une contre-information, on pourrait dire, qui se place en rupture avec les médias dominants, donc les médias télévisuels et radiophoniques qui sont aux mains de quelques grandes entreprises en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, on le sait, et qui donc passe d'abord par la formation, l'échange de savoir. C'est vrai qu'on constate que dans notre société actuellement, l'informatique et les technologies de l'information occupent une place de plus en plus importante, mais que dans le même temps, la plupart des individus se trouvent relativement détachés de ça parce qu'ils n'ont pas la formation correspondante. Ce sont des modes de communication relativement nouveaux qui, d'un côté, supposent suffisamment de capital financier pour pouvoir investir dans un ordinateur, sachant que l'économie encourage une consommation frénétique. Il s'agit, quand on regarde les publicités à la télé, d'acheter toujours le dernier modèle pour faire tourner le dernier système d'exploitation de Microsoft, et donc d'être dans une course effrénée à la consommation, qui serait garant de notre possibilité de communiquer à travers ces nouveaux outils. Nous, on prend le contre-pied de ça en proposant aux individus de récupérer des machines ou de garder leur vieille configuration, d'installer au contraire des logiciels libres dessus. Donc déjà économiquement, ça permet un accès au plus grand nombre. Et puis de l'autre, on propose une formation plus culturelle, entre guillemets, donc une appropriation des outils informatiques libres, puisque c'est un choix qu'on a fait. On n'utilise évidemment aucun logiciel de type Microsoft ou logiciel propriétaire. On n'utilise que des logiciels libres, donc je reviendrai peut-être plus en détail plus tard sur ce que c'est exactement. Donc pour utiliser ces outils technologiques comme espace de communication indépendante. Donc concrètement, tous les mercredis après-midi, lors des permanences des tanneries, Prine propose un accès gratuit à Internet. Il nous semble effectivement important que les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas les moyens financiers de se connecter puissent venir consulter librement en toute gratuité l'Internet et même y participer, puisqu'effectivement, une spécificité de l'Internet, et c'est en ça que ça rejoint aussi la question des médias libres ou la question de la libre expression. Internet, c'est un média particulièrement intéressant dans le sens où il permet une bidirectionnalité, c'est-à-dire une interactivité. Internet, ce n'est, à la différence de la télé, ce n'est pas un gros réseau avec une multitude de chaînes sur lesquelles on pourrait zapper et passer d'un programme à l'autre. C'est un espace où effectivement on peut surfer sur quantité de sites avec des informations différentes, parfois contradictoires, mais c'est aussi et surtout un espace qui permet à quiconque de proposer des contenus. Ainsi, chaque ordinateur connecté à Internet peut non seulement accéder à la multitude d'informations qui se trouvent sur le réseau, mais également en proposer d'autres. Et donc, chaque consommateur d'informations peut également en devenir producteur. Et donc, dans le cadre de Print, on ne se contente pas de fournir un accès à Internet, mais on essaye aussi d'aiguiller les utilisateurs, les personnes qui nous rendent visite, sur un certain nombre de sites qui présentent cette caractéristique essentielle, qui est de pouvoir participer, de pouvoir devenir acteur de l'information et non seulement consommateur. Et notamment, c'est le cas du réseau Indie Media, qui est un réseau international de médias indépendants et participatifs, et qui permet à tout un chacun, toute une chacune, de devenir journaliste autant que consommateur ou consommatrice d'informations.
Très bien, on va revenir un peu sur la notion de logiciel libre.
Alors un logiciel libre, par opposition à un logiciel propriétaire, c'est un logiciel qui est ouvert, qui permet qui donne le pouvoir à ses utilisateurs. Un logiciel propriétaire, puisqu'il faut commencer par le définir, c'est le logiciel tel qu'on le côtoie en général quand on va voir un ordinateur à la Fnac par exemple, ou tel que malheureusement il est très répandu sur les ordinateurs particuliers. Un logiciel propriétaire comme par exemple, au hasard, Microsoft Windows, c'est un logiciel qu'on nous vend, et qu'on nous vend avec l'interdiction formelle de le copier sur d'autres machines, de le distribuer à ses amis, et encore plus d'en étudier le contenu, de l'améliorer, bref, de le comprendre. Pour prendre une image assez symbolique, acheter un logiciel propriétaire tel que Windows, c'est comme acheter une voiture dont le capot serait préalablement soudé et dont on aurait l'interdiction formelle de l'ouvrir. Donc en gros, on devient complètement dépendant d'un logiciel qui nous empêche de comprendre comment notre ordinateur fonctionne et qui nous empêche de l'adapter à des usages spécifiques. A l'inverse, le logiciel libre, c'est un logiciel qui est livré avec son code source. Le code source d'un logiciel étant le langage de programmation dans lequel le programmeur qui l'a réalisé l'a écrit. C'est-à-dire, pour prendre une autre image plus parlante, un logiciel, c'est comme un gâteau. Quand on programme un logiciel, on écrit une recette et ensuite on interprète cette recette, on passe cette recette dans une espèce de boulinette de l'ordinateur pour le transformer en langage binaire fait de 0 et de 1 que l'ordinateur va pouvoir comprendre. Néanmoins, aucun humain normalement constitué a priori ne peut comprendre le langage fait de 0 et de 1, donc on passe par un langage intermédiaire qui est le code source, qui est la recette du programme. Alors les logiciels propriétaires ne nous permettent d'acheter que les gâteaux finis, et qu'on ne peut que manger passivement, alors que le logiciel libre nous propose à la fois le gâteau après cuisson, mais également la recette, de manière à ce qu'on puisse d'un côté comprendre comment le gâteau a été cuisiné et qu'on puisse créer d'autres gâteaux à notre convenance, mais qu'on puisse également modifier un élément de la recette pour pallier à un manque, pour corriger un bug et donc participer à la création du logiciel et à sa diffusion de manière collaborative. Ainsi, à la différence du logiciel propriétaire, qui est le fait d'une multinationale ou d'une entreprise qui garde jalousement ses secrets professionnels bien sous clé, le logiciel libre est le fruit de la collaboration bénévole, libre, de milliers d'utilisateurs, de milliers de programmeurs de par le monde et qui se coordonnent grâce à Internet et qui créent ainsi un système d'exploitation et une quantité de logiciels alternatifs au logiciel propriétaire et qui, en plus d'être éthiquement et philosophiquement bien plus acceptable, de nourrir cette dynamique de communauté, de collaboration, de mutualisation des savoirs et d'une excellence technique incomparable avec les logiciels propriétaires que sont Microsoft. C'est vrai que quiconque a utilisé un ordinateur avec Microsoft Windows pendant quelques temps a remarqué que ça plante très souvent, que les écrans bleus sont fameux, alors que dans le logiciel libre, bon, les plantages ne sont pas inexistants, mais quand un problème survient, on a non seulement la possibilité de le contourner soi-même, si on en a les compétences en écrivant un correctif pour le logiciel, mais on peut également s'en remettre à la communauté des logiciels libres qui, a priori, va pallier à ce problème-là dans des délais très courts.
On va maintenant parler de la loi donc, qui s'appelle la LEN et donc, qui a donné lieu à une manifestation donc, organisée par Print et apparemment d'autres internautes en colère d'après ce que j'ai vu sur les affiches. Donc qu'est-ce que c'est que cette LEN?
Alors la LEN, c'est la loi sur l'économie numérique. C'est une loi qui a été votée par le gouvernement, qui a été proposée par Nicole Fontaine, ministre de l'Industrie, dont on connaît par ailleurs les sympathies relativement fortes avec les leaders de l'industrie de la musique, de grosses multinationales, donc celle la même que je citais tout à l'heure, Virgin, Universal, etc. Ces mêmes multinationales de la musique qui se voient actuellement un petit peu contrariées par les réseaux d'échange qui se développent sur Internet, les réseaux peer-to-peer, qui permettent à des utilisateurs et des utilisatrices d'échanger des fichiers musicaux, des fichiers vidéo et puis leurs différentes créations. Alors, prétextant un manque à gagner considérable et même des pertes financières, ce qui sont d'ailleurs contredites par des études statistiques, il se trouve que l'industrie de la musique n'a jamais été aussi florissante. Néanmoins, sous ce prétexte fallacieux, le gouvernement, donc à travers Nicole Fontaine, a voté un texte, la loi sur l'économie numérique, qui vise à instaurer une responsabilité pénale des hébergeurs de contenu. Alors comme ça peut paraître un petit peu vague, sauf que ça a des conséquences directes dramatiques. Les hébergeurs de contenu, ce sont les fournisseurs d'accès Internet, tels que Wanadoo, tels que Free, ou tels que beaucoup d'autres, et c'est ceux-là qui nous intéressent particulièrement, des petites coopératives, des collectifs, qui réunissent le fonds de plusieurs utilisateurs autour d'un projet, pour mettre en ligne un serveur qui permettra ensuite d'héberger des sites web et autres ressources Internet. C'est ce qui fait que c'est grâce à des serveurs Internet qu'on peut surfer sur Internet, qu'on peut taper google.fr dans un navigateur ou tout un tas d'autres sites divers et variés. Or, si les hébergeurs de contenu, si les prestataires techniques deviennent responsables des contenus qu'ils hébergent, cela suppose qu'ils vont pouvoir être condamnés pour des contenus qui seraient présumés illicites ou qui contrarieraient par exemple une multinationale ou une entreprise un petit peu puissante. Ça aura pour conséquence d'établir un régime de censure et un régime de délation sur Internet. Car quand on sait les coûts engagés par une procédure pénale, et quand bien même on est vainqueur à l'issue de cette procédure, et quand on sait également le peu de moyens dont disposent les petits hébergeurs et autres associations de l'Internet indépendants, on se rend vite compte que un ou deux ou trois procès auront vite fait de couler, même en cas de victoire, les hébergeurs indépendants qui voudront protéger les contenus et la libre expression de leurs utilisateurs. A l'inverse, les hébergeurs commerciaux, qui en général n'auront pas de scrupules à censurer les contenus, puisque leur préoccupation est bien entendu de rentabiliser, de maximiser leurs profits, seront soumis à un chantage et obtempéreront a priori dans la plupart des cas, puisqu'ils seront près de leurs deniers et ne porteront pas en point d'honneur la liberté d'expression de leurs utilisateurs. Pour illustrer un petit peu le propos et prendre un cas pratique, imaginons un site comme transnational.org, qui est un site d'enquête indépendante sur les méfaits des multinationales, sur les réseaux économiques ou mafieux qui sont à la source des transactions financières de quantité de multinationales. Il est bien évident qu'un site comme celui-ci contrarie énormément un certain nombre d'entreprises, de par l'image publique que ceux-ci veulent se donner à travers le marketing, etc. Et que quand des réalités sur ces entreprises, des réalités pourtant nécessaires à l'enquête indépendante, au journalisme de terrain, etc., sont divulguées, ces entreprises vont vouloir faire taire de telles initiatives. Il suffira alors pour l'entreprise de passer un coup de fil au fournisseur d'accès qui héberge le site en question, de dire tel site est diffamatoire pour notre marque, Nous estimons que ce site est mensonger et nous allons vous assigner en procès pour obtenir la fermeture de ce site-là. Le fournisseur d'accès commercial ne va pas s'embêter avec une procédure pénale et va tout simplement couper l'accès à ce site-là sans autre forme de procès pour ne pas avoir de dommages financiers. Donc c'est ainsi l'instauration d'une justice privée, d'une justice qui est livrée à l'appréciation des fournisseurs d'accès et qui transforme finalement les prestataires techniques en auxiliaires de police. Ce qui est complètement intolérable puisque de fil en aiguille, évidemment, progressivement, on va arriver à la disparition progressive de tous les espaces de libre expression sur Internet. Alors évidemment en premier lieu des sites polémiques, des sites qui ne seront pas forcément même illégaux, mais qui auront pour mérite de livrer des informations peu habituelles, des informations polémiques sur Internet, et puis progressivement la fermeture également de tous les forums, de tous les wikis qui sont des sites contributifs, de tous les blogs qui sont des espaces d'expression personnelle pour utilisateurs, etc., etc. Donc voilà, une fermeture en cascade de tous les espaces qui permettent à quiconque de publier instantanément du contenu sur Internet et qui on fait la spécificité d'Internet. Si Internet s'est construit comme réseau d'échange de savoir et de toute une diversité d'informations, c'est justement parce que, dès le départ, il a été constitué de toutes ces plateformes de publication libre, de tous ces espaces d'expression et d'hébergement. On n'imaginerait pas un Internet sans discussion en temps réel, on n'imaginerait pas un Internet sans forum et sans espace d'échange, de débat entre internautes, et c'est pourtant ce qui se prépare avec la LAN.
Ok, donc c'est très clair, on a bien éclairci ce sujet qui est assez complexe, donc on remercie les tanneries et le print.